Garde toi dessus. L'actualité tout autour de la Méditerranée.
1538, Méditerranée. Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Liban, Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur les ondes de Radio Grenouille, l'émission qui tourne son regard du côté de la mer en allant à la découverte de ce qui se passe au Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient et chez nos voisins d'Europe du Sud. Au micro, Colline et Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Comme chaque mois, nous revenons sur les grands enjeux des sociétés méditerranéennes à travers les dossiers traités sur notre magazine d'information en ligne www.1538mediterranee.com et grâce au travail de nos correspondants partout dans la région.
Et la semaine dernière, nous avons actualisé le dossier migration, dossier publié il y a 2 ans lors du lancement de notre site 1538 Méditerranée. L'occasion de revenir aujourd'hui sur la situation actuelle en mer. On propose dans ce dossier un décryptage et une chronologie des politiques migratoires européennes. Ce dossier, c'est aussi une virée en Grèce, à Lesbos, où Serena Magnolia, photographe et activiste, nous fait découvrir les réalités des conditions de vie des réfugiés qui sont encore nombreux à arriver de Turquie sur les îles grecques via des réseaux de passeurs, et ce malgré les politiques européennes d'endiguement des migrants en Turquie. Des articles et des reportages qui nous emmènent aussi à la frontière italienne où en montagne, des jeunes Guinéens, Soudanais, venus d'Afrique subsaharienne, meurent de froid en tentant de rejoindre la France, et à Marseille, où à l'image de la France, l'accueil est toujours aussi compliqué.
Alors, Pierre Isnard-Dupuis, vous avez réalisé un reportage à la frontière italienne, justement, et vous êtes aujourd'hui dans le Briançonnais à l'occasion d'une visite surprise d'élus d'Europe Écologie Les Verts à la police des frontières. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices.
Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la visite ?
Alors, le contexte dans le Briançonnais est assez compliqué. Alors, c'est une zone de haute montagne, hein, c'est ça qu'il faut rappeler, ce qui est important, à la frontière donc entre l'Italie et la France. Donc, il y a effectivement des personnes exilées qui cherchent à venir en France. Et ça fait, c'est le troisième hiver, là, que ces personnes viennent. Donc, elles viennent aussi l'été, hein, mais ça a commencé, donc, il y a 3 hivers maintenant. Du fait que la frontière basse, comme on dit, plus au sud, du côté de Nice et de la vallée de la Roya, est de plus en plus contrôlée. Et là, pour éviter d'être contrôlée par la police ou par la gendarmerie en montagne, et en fait, ces personnes vont se mettre en danger en montagne pour éviter donc les grands axes. Et ça se passe en particulier au-dessus du col de Montgenèvre, le col de Montgenèvre qui est déjà à 1800 mètres d'altitude. Donc ces personnes peuvent emprunter des itinéraires dans la montagne encore plus haut. Et en ce moment, ça se fait dans la neige.
Et ces personnes, voilà. Il y en a qui meurent, et ces personnes, elles sont souvent en simple basket ou voire claquette pour traverser ce col.
Alors oui, il y a 4 morts hein, qui ont été déjà comptabilisés à cette frontière, dont un il y a 15 jours. Même un peu plus de 15 jours, c'était début février, le 7 février, et donc c'était un Togolais de 28 ans, Tamimou Derman, il s'appelait, et lui, il est mort sur le bord de la route après avoir marché quelque temps, en chaussettes dans la neige, parce que il avait perdu ses bottes qui sont restées bloquées dans la neige. Voilà, et là, à l'occasion de notre visite, enfin de la visite avec Michel Rivasi, donc qui est eurodéputé, nous avons pu rencontrer aussi des gens qui nous racontaient avoir marché avec la neige jusqu'aux genoux, parfois jusqu'aux hanches.
Et comment elle s'organise la solidarité comment s'organisent les personnes qui vivent dans cette région-là et qui voient ces personnes tenter la traversée de la frontière dans ces conditions?
Alors déjà, donc ça s'est fait progressivement parce que le nombre de passages aussi a augmenté progressivement. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'il y a un endroit qui s'appelle le Refuge Solidaire à Briançon, qui est un lieu qui appartient à la communauté de communes du Grand Briançonnais et qui est mis à disposition d'une association pour faire l'accueil, le premier accueil. Et parallèlement à ça, il y a des gens qui s'organisent en maraude. Donc ils vont dans la montagne pour éviter justement qu'il y ait des gens qui finissent avec des gelures sérieuses ou qui finissent, comme on l'a dit précédemment, morts tout simplement, quoi. Donc ils vont les récupérer et ils les ramènent pour les mettre à l'abri à Briançon. Mais ça, c'est quelque chose qui est réprimé, hein. Ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être convoqués par la suite à la police ou à la gendarmerie pour aide à l'entrée d'étrangers en France.
Et ça, justement, Pierre, est-ce que c'est quelque chose qu'a décidé de dénoncer Europe Écologie Les Verts en venant peut-être rencontrer ces personnes qui sont solidaires face à ces jeunes migrants?
Alors, je pense que Michel Rivasi vous parlera mieux que moi du sens de cette visite qu'elle organise. Mais l'idée, c'est de venir voir, effectivement, comment ça se passe à cette frontière. Est-ce que les actions de la police aux frontières, donc qui a un poste frontière à Montgenèvre, et c'était l'objet d'une visite surprise ce matin, sont bien légales. Est-ce que ça respecte bien la protection des personnes?
Alors justement, la députée européenne Michèle Rivasi est à vos côtés. On va peut-être lui passer la parole. Bonjour, Madame Rivasi.
Bonjour.
Alors, vous êtes sur Radio Grenouille avec 1538 Méditerranée. On est un média d'information en ligne sur les problématiques méditerranéennes. Et dans le cadre de son reportage, Pierre s'est intéressé à ce qui se passe à la frontière. Et ce qu'on voulait savoir avec vous aujourd'hui, en fait, c'est... on sait que vous avez fait déjà une première visite à la police des frontières de Menton l'année dernière. Qu'est-ce qui vous intéresse lors de ces visites?
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe pour la surveillance de la frontière. Qu'en est-il de la politique au niveau des mineurs? Est-ce que la loi est respectée? Et après, comment sont pris en charge les gens? Et là, en ce moment même, je discute avec les gens de l'hôpital de Briançon, savoir comment sont gérés les mineurs. Et puis, ils me disent des choses qui sont un peu de l'ordre de l'horreur, quoi. Parce que ces mineurs, si vous voulez, quand ils sont à l'hôpital, ils doivent aller au commissariat. Là, au commissariat, personne ne les amène. Ils doivent rester au moins 2-3 heures dehors, vous voyez, avant qu'ils soient enregistrés, alors qu'ils dépendent du conseil départemental. Donc, vous voyez, c'est un peu... Il n'y a pas de lisibilité au niveau de tous ces gens. Et ça, c'est un peu mon boulot, vous voyez, de voir comment la loi est appliquée.
Et les élections européennes auront lieu fin mai. J'imagine que cette visite n'est pas anodine. Dans ce contexte, que peut faire l'Europe sur ces questions?
Mais écoutez, il y a plusieurs choses au niveau de l'Europe. Déjà, le Parlement européen, donc ça, c'est les députés européens, ont fait passer toute une série de résolutions parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème, vous voyez, où l'Italie a reçu énormément de migrants, que la France se décharge sur l'Italie parce que vous voyez que tous ces gens-là veulent traverser la France et quand ils sont pris par les policiers, ils repartent en Italie. Ils essaient 5 fois, 10 fois, jusqu'à 100 fois, jusqu'à ce qu'ils passent. Le fait de faire ça, par exemple, dans la région de Briançon, ça peut entraîner des gelures très importantes et puis même des morts par hypothermie. Donc vous voyez que ça, c'est pas admissible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une surveillance, mais qu'en même temps, il y ait une prise en charge d'accueil, au moins. La France peut être un pays d'accueil. Et pas un pays de répression qui font que ces gens courent des risques incroyables. C'est un peu ça mon boulot. Et puis les États membres qui ne veulent pas accepter et qui ne veulent pas voir, voyez, le problème des migrants. Donc vous avez vu qu'il y a des pays européens comme l'Autriche, comme la Hongrie, comme la Pologne qui refusent tout migrant, que même la France refuse les migrants provenant de l'Italie. Alors que l'Italie, elle ne peut pas accepter tous ces migrants qui passent, qui viennent de la mer, et que normalement, il devrait y avoir une solidarité européenne. Et donc, ça intervient dans les grands sujets de la campagne européenne, où il faut que ces migrants soient répartis de façon équitable au niveau de tous les États membres, avec une responsabilité de chaque État membre, et non pas de se renvoyer la balle.
Oui, une répartition qui jusqu'à maintenant n'a pas été clairement adoptée par les 28 États membres de l'Union européenne.
Mais écoutez, M. Juncker, président de la Commission, avait demandé une répartition de 160 000 personnes. Donc l'Allemagne, elle a accepté un certain quota. La France, elle devait en accepter 30 000. En fait, elle n'en a reçu que 6 000. L'Espagne, elle devait en accepter. La Suède a joué son jeu. Mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas joué. Donc ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas tout laisser à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne. Et vous voyez, se dire, ah ben non, nous, on veut pas voir le problème de la migration. Il faut qu'on accepte un certain quota et surtout qu'on ait une politique d'accueil. Moi, quand je vois ces jeunes-là que j'ai rencontrés à Briançon, qui sont pas du tout équipés pour traverser, vous voyez, les montagnes, et qui se retrouvent à l'hôpital avec des pieds gelés, des mains gelées, ou même des fractures, je me dis, on conduit, vous voyez, par cette politique débile, à la mort de ces gamins.
On vous remercie pour cette prise de position, Michel Rivasi, et merci à Pierre d'avoir répondu à nos questions depuis le Briançonnais aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son reportage dans les Hautes-Alpes sur notre site www.1538méditerranée.com.
Merci à vous.
1538, des clés pour comprendre et agir.
1538méditerranée.com. Et maintenant, direction le Liban, où là aussi, des personnes réfugiées syriennes meurent et vivent dans des conditions très difficiles. La situation des réfugiés, elle s'est enlisée au mois de décembre 2018, comme chaque hiver, dans les campagnes enneigées du Liban, et où l'aide, malgré 7 ans de présence, peine à s'organiser. Les tempêtes ont touché fortement la plaine de la Beka, dans l'est du pays, où des milliers de familles vivent dans des camps informels, des camps donc, qui ont été construits par les familles elles-mêmes, et des personnes qui sont se retrouvées donc les pieds dans l'eau et dans la neige. Heureusement, sur place, il y a des ONG qui s'organisent depuis le début de l'arrivée des réfugiés syriens en 2011 au Liban pour apporter dignité et aide humanitaire aux familles, là où l'État libanais, d'ailleurs, s'est désengagé depuis le début, laissant cette tâche principalement au Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, l'UNHCR, qui gère la crise comme elle peut. Nous retrouvons sur place Georges Talamas, un Syrien, cofondateur de l'association Basma Wazetouna, qui agit dans 5 régions libanaises en apportant de l'aide d'urgence, de l'éducation, du travail, de la formation aux familles syriennes, et qu'on avait rencontré d'ailleurs avec Colline quand on était en poste au Liban. Bonjour Georges.
Bonjour.
Alors Georges, on voulait savoir pourquoi et dans quelles conditions vous avez mis en place les actions de l'association Basma Wazetouna.
Maintenant ou depuis 6 ans?
Depuis 6 ans. C'est-à-dire, comment vous avez commencé? Pourquoi vous avez décidé de mettre en place cette association?
Depuis 6 ans, quand le conflit en Syrie a augmenté, le nombre de réfugiés syriens a augmenté beaucoup au Liban. Et il n'y avait pas vraiment une vraie aide pour les réfugiés syriens en 2012. Surtout que l'État libanais a pas signé sur le droit de réfugié. Il y avait personne qui prenait aucune action. On a décidé, comme petit groupe de volontaires syriens qui avaient quitté la Syrie à fin 2012, de faire une petite aide. C'était des aides de nourriture, des aides, de chercher des maisons, de distribuer quelques matelas ou quelques couvertures pour les réfugiés. C'était vraiment des aides momentanément, parce que nous, on croyait que ça va être, que ça va terminer en vitesse ou plus vite le conflit en Syrie. Mais après quelques mois, quand on est devenu à la moitié de 2013, et quand on a réalisé que ça va être très long, on a décidé de prendre, de devenir une NGO, une organisation inscrite, qu'elle puisse travailler beaucoup plus à long terme avec les réfugiés et donner des aides, et donner des services d'éducation, de protection, et même des services qu'ils peuvent vivre d'une façon d'unité. Comme ça, on a commencé, on a grandi, et on a maintenant plusieurs centres dans tout le Liban.
Oui, et donc vous, dans ces centres, c'est-à-dire que vous êtes là auprès des enfants, mais aussi des femmes, il me semble. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu vos actions?
Nous, on travaille d'une façon de community center, des centres communautaires. L'idée est d'être au milieu des gens, de notre peuple. Ça veut dire pas de faire un projet quelque part pour quelques mois après quitter et laisser. Parce que on croit que si tu veux faire vraiment un changement et faire un impact sur avec les gens, tu dois travailler à long terme. C'est pour ça nos centres, ils sont au milieu des, on peut dire dans les villes un peu pauvres ou les villes qui n'ont pas beaucoup d'aide, où ils sont, c'est des camps réfugiés palestiniens avant qu'ils viennent les Syriens, où ils sont dans des petits villages au Bika et à Tripoli, où la situation est, dès le début, elle n'est pas bien, il n'y a pas beaucoup de services. C'est pour ça, nous, nos services, on les donne à tout le monde. On travaille avec les enfants, ça veut dire on donne des cours d'éducation, ceux qui ne sont pas partis à l'école ou qui ont des problèmes, qu'ils puissent suivre avec les écoles du gouvernement. Et même on travaille avec les femmes dans plusieurs projets du protection et aussi on a des workshops avec les femmes qui apprennent comment travailler un peu, comment avoir un peu d'argent à travers qui puissent coudre, ça veut dire, et qui puissent apprendre la broderie aussi. Nous on vend après tout ce qu'ils font, et même il y a aussi un petit programme de small grants, des petits projets qu'on donne des trainings aux femmes dans la gestion et la comptabilité, et après ils peuvent présenter leur travail ou leur boulot qu'ils veulent travailler, et après nous on finance, et ils peuvent être comme ça indépendants et avoir un peu de l'argent pour qu'ils vivent d'une façon plus agréable et avec plus d'unité. Aussi on travaille avec les jeunes, on donne beaucoup de cours d'anglais, de computer, et même aussi des cours de coding s'ils veulent travailler avec l'informatique, ça veut dire online s'ils veulent travailler avec dehors. Et même on a aussi des programmes de culture où ils peuvent ils veulent écrire des histoires, ou ils veulent faire une pièce de théâtre, ou ils veulent aussi à travers notre bibliothèque qu'on a à Chatila, ils peuvent lire beaucoup de livres et même avoir l'accès sur l'internet. On a plusieurs ordinateurs où ils peuvent s'aider s'ils veulent faire une recherche ou étudier. L'idée est d'avoir un centre dans les lieux où ils sont pour qu'ils ont la possibilité d'accès, de venir, de sentir un peu qu'ils ont une place pour eux, où ils peuvent aussi donner des idées, des initiatives qu'ils peuvent eux aussi faire. Comme on a eu depuis un an maintenant une plateforme qui s'appelle Camji, qu'elle a commencé dans Bassin des Tournées, l'idée était avec de donner des entraînements sur le média et comment ils peuvent faire un petit reportage. Et après, petit à petit, ils sont devenus indépendants et maintenant ils travaillent tout seuls comme un petit groupe de jeunes. C'est ça l'idée de notre comité.
Oui, et c'est très important parce qu'on rappelle qu'il y a quand même 1,5 million de réfugiés syriens au Liban et que tous n'ont pas accès à ce genre d'aide, qu'il y a une jeunesse syrienne qui est délaissée. Quels sont les besoins principaux aujourd'hui des réfugiés syriens, on pourrait dire, au Liban? Quels besoins vraiment apparaissent aujourd'hui?
Ils ont besoin beaucoup de boulot et beaucoup d'aide. Comme tu as déjà dit, qu'il y a 1,5 million de réfugiés syriens. Et comme État libanais, ils n'ont pas le droit vraiment d'avoir boulot privé. C'est pour ça que seulement c'est permis, c'est où ils travaillent dans l'agriculture. Où ils travaillent comme la construction des maisons et des immeubles, comme travailleurs, et où aussi avec tout ce qui est, on dit, sans propreté, c'est comme ils peuvent, ça veut dire ramasser la poubelle et tout ça, ce genre de travail. Ça veut dire ils sont ouvriers. Ils n'ont pas le droit de travailler autre chose de, dans un dans aucun
dans un aucun autre secteur.
Oui, dans un autre secteur. Et c'est ça qui donne beaucoup de difficultés avec tous les gens qui sont cultivés ou qui ont la capacité de travailler autre chose. Et c'était un peu plus facile qu'ils ont leur propre travail en dehors de Beyrouth. Maintenant, dans toute la situation politique et de sécurité de ce qui se passe au Liban, maintenant, c'est plus difficile que les gens ouvrent leur propre travail, qu'ils ont leur magasin. Il y a beaucoup de complications et beaucoup, c'est un peu renfermé maintenant parce qu'ils commencent à demander, ça veut dire, ils veulent que les Syriens retournent en Syrie et ils font tout que ça être beaucoup plus compliqué pour eux d'avoir l'accès à aucun travail, aucun boulot, aucune façon de vivre d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus
coupable. Oui, voilà. Donc oui, rappelons que la majorité des Syriens aujourd'hui au Liban vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et en effet, même si les institutions libanaises veulent pousser les Syriens à rentrer chez eux, sachez qu'aujourd'hui, c'est impossible dans de nombreuses régions parce qu'ils craignent en tout cas d'être arrêtés par le régime syrien et que ce droit au retour est largement remis en question aujourd'hui dans l'idée d'une éventuelle reconstruction de la vie en Syrie. Merci Georges et à bientôt.
De rien, merci à vous.
Les dossiers 1538 Méditerranée.
Dans notre séquence en direct, nous lançons avec vous un nouveau dossier de la rédaction de 1538. En effet, le 18 avril, en Algérie, l'élection présidentielle doit avoir lieu. Une élection aux enjeux multiples et notamment la candidature du président actuel, Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations ont eu lieu, notamment le 1er mars, où l'on a vu une jeunesse algérienne fatiguée de l'immobilisme politique. On a pu lire sur certaines banderoles « Tout est corrompu, on ne peut rien faire ». À Alger, mais aussi à Batna, Tipaza ou Ouargla, partout, des gens ont pris la rue pour dire non à ce cinquième mandat, alors que le président en fauteuil ne prend plus la parole publiquement depuis longtemps. Un président qui a annoncé dimanche soir qu'il se représentait. Alors Leïla Berato, cofondatrice de 1538 en Algérie, suivra de près ces élections. Et à Marseille, Justin de Gonzague y promène son micro en bord de mer et interroge les Algériens de la ville. Une série audio dont nous vous proposons aujourd'hui un extrait.
Ah ouais, bah oulala, c'est bon quoi, toi, t'es méditerranéen toi.
C'est ça.
Et tu t'appelles comment ?
Jamal.
Jamal, ok. Bon, alors Jamal, toi t'es là au bord, sur la corniche là, et tu vas pêcher.
C'est ça.
Tranquille.
C'est ça, exact.
Tu sais, toi tu suis les actualités.
Oui, je suis
les actualités. Alors tu sais exactement ce qui se passe en ce moment là-bas.
Oui, je vois que, où ça, en Algérie.
Oui.
Oui, je vois qu'en ce moment il y a une petite révolte du peuple.
Toi, tu prends pour une petite révolte, toi.
Ah, même une grosse révolte. Je prends ça pour une révolte du peuple, parce que, en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est ils veulent pas un cinquième mandat pour leur président, qui est actuel, en fait. Et c'est compréhensible. Ça peut se comprendre.
Et toi, dans ta vie de tous les jours, tu partages cette révolte avec tes parents, avec tes copains? Vous en parlez ou pas?
Ah oui, ça nous arrive d'en parler. Après, mis à part en parler, on ne fait rien de plus. Voilà, c'est juste on en parle, on regarde un peu ce qui se passe. On regarde comment les choses avancent et voilà, on est juste spectateur.
Oui. Mais est-ce que ça nourrit un espoir? Ça nourrit un espoir ou vous avez peur de la répression? Parce qu'il y a encore, il y a beaucoup de gens qui ont des familles là-bas encore.
Oui, voilà, il y a encore beaucoup.
Donc, moi, ce que j'ai ressenti là, des interviews, c'est que les gens, ils sont dans un entre-deux. Ils sont pleins d'espoir parce que ça peut changer quelque chose dans le pays.
Oui, ça peut changer beaucoup de choses dans le pays. Mais après, d'un autre côté, ça peut aussi aggraver ça. Donc voilà, ce qu'on espère, c'est juste qu'ils font les choses bien, quoi. Qu'ils font les choses comme il faut.
Mais qui, les manifestants ou le gouvernement?
Ah, les deux, des deux côtés. Il faut que ça se fasse des deux côtés, là. Il faut que les deux mettent du sien. Que le gouvernement, parce que le gouvernement, il sait très bien que ce qu'il fait, c'est pas correct vis-à-vis du peuple. Et le peuple, il s'en rend compte. Donc maintenant, il faut juste qu'ils arrivent à s'arranger et voir ce qu'il veut le peuple, quoi.
Mais toi, tu y es déjà allé?
J'en reviens, là. J'y étais il y a quelques mois de ça.
Ouais. Et comment tu ressens ce pays, toi? Comment tu l'appréhendes, ce pays?
C'est-à-dire comment?
C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
C'est le pays d'origine de mes parents. Donc, du coup, je pense que c'est aussi le pays de mes origines. Donc, voilà, c'est la terre de mes ancêtres. Donc, c'est un pays qui a de l'importance.
Et t'en parles avec tes parents?
Oui, ça m'arrive.
Et eux, là, t'en as parlé avec eux de ce qui se passe? Ils suivent ce qui se passe,
ils suivent, ouais, ils suivent de loin. Ils suivent de loin. Après, quand ils ont des coups de téléphone avec ceux qui sont là-bas, la famille, ça, ils racontent un peu. Mais pas plus, ils sont pas vraiment impliqués dans...
Oui, c'est le début aussi.
C'est ça, après c'est le début, voilà, ça en parle, pour l'instant c'est juste des conversations. Mais c'est bien, après on voit ce qui se passe là-bas et ça fait plaisir de voir qu'il y a du changement en fait. Et qu'ils vont pas rester comme ça une éternité. Que les consciences se réveillent.
Toi, ça te fait plaisir qu'ils se battent, quoi?
Moi, ça me fait plaisir qu'ils se battent parce que en étant là-bas, en parlant avec les gens du peuple, on sait très bien que le peuple, ils aiment pas le gouvernement actuel. On le sait très bien, mais le peuple, il dit rien, il peut rien faire. Voilà. Il y a la répression, il y a beaucoup de choses en Algérie. Et donc ça fait plaisir, voilà, qu'il y a déjà un mouvement du peuple qui se révolte et qui se dit ouais, c'est bon, c'est pas normal, ils essayent d'éveiller d'autres consciences. Ça peut, même si ça va pas faire changer grand chose, ça peut faire au moins bouger les esprits. Et ça, c'est déjà bien pour la suite, pour le pays.
Merci beaucoup, Jérôme.
Voilà, derrière, y a pas de problème.
Si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver notre dossier sur le site 1538méditerranée.com à la fin du mois et suivre aussi toutes nos publications sur les réseaux sociaux où 1538 publie quotidiennement des informations. Vous pouvez aussi soutenir notre aventure en vous procurant le MOOC de 1538 Une année en Méditerranée. Toutes les infos sur notre site rubrique Soutenez notre indépendance. C'est la fin de cette émission méditerranéenne, un partenariat entre Radio Grenouille et 1538 Méditerranée. On vous donne rendez-vous le mois prochain.
Pollution, éducation, santé, Algérie, Maroc, Tunisie, travail, migration, amour, Liban, Syrie, Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir en Méditerranée. Rendez-vous sur 1538méditerranée.com. 1538.